Vous êtes sur RTL.
RTL Soir démarre avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Et ce soir à la une, cette audition dans la mystérieuse affaire Chevaline. Une personne est en garde à vue. Son emploi du temps est vérifié presque 10 ans après l'énigmatique tuerie. Un cycliste et 3 membres d'une même famille découverts abattus sur un parking de Haute-Savoie. Les autres titres de l'actualité maintenant dans votre journal. Bonsoir Marion Calèche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un jeudi dans la rue plutôt qu'à l'école. Mobilisation des enseignants demain contre la gestion de la crise sanitaire ces 2 dernières années et ces derniers jours particulièrement avec le protocole de test. Un protocole qui secoue le gouvernement avec un avant-conseil des ministres tendu entre les ministres de l'éducation et de la santé. Récit à suivre. Dans ce journal aussi, les plates excuses de Boris Johnson pour une fête polémique en plein confinement. Et puis la flambée des prix des carburants. Nous suivrons un artisan en difficulté. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 12, le 2, le 15, le 3 et le 16.
À 18h15, notre invité sera Patrice Evra, l'ex-capitaine des Bleus, publie son autobiographie. Il y raconte avoir été victime adolescente d'abus sexuels, parle aussi très ouvertement du racisme, de son enfance en banlieue et de son immense carrière. Après 18h30, les dessous de l'actu, RTL a suivi le dernier voyage de Paul, un Français malade, parti mettre fin à ses jours en Suisse. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, on fait pas les soldes puisqu'on vous emmène dans les coulisses de l'industrie du luxe. Vous découvrirez les secrets de ce fleuron de l'économie française. Au menu également, l'EPR de Flamanville, saga d'un échec interminable et l'astuce de Jeff Bezos pour devenir milliardaire.
À 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet. Tiens, on parlera du Québec qui fait passer à la caisse les non-vaccinés. Et puis des points météo réguliers avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance ?
Comme aujourd'hui avec normalement plus de soleil au nord.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
C'est donc un mystère qui perdure. Plus de 9 ans après la tuerie de Chevaline, une personne a été placée en garde à vue.
Chevaline, ce quadruple meurtre devenu énigme. Septembre 2012, non loin du lac d'Annecy, 3 membres d'une même famille britannique sont retrouvés morts dans leur voiture, ainsi qu'un cycliste de la région. Bonsoir Serge Puyot. Vous êtes le correspondant de RTL dans les Alpes, un peu plus de 9 ans après, donc un homme a été interpellé ce matin.
Oui, cet homme a été interpellé dans la région lyonnaise et placé en garde à vue vers 8h ce matin. Dans la foulée, son domicile a été perquisitionné par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry, chargée de l'enquête. La procureure d'Annecy, qui supervise ce dossier, a précisé qu'il s'agissait, je cite, « d'une vérification d'emploi du temps et qu'il ne fallait pas s'emballer ». Car il ne s'agit pas de la première garde à vue dans ce dossier. Il y en a déjà eu plusieurs et qui n'ont donné aucun résultat. On ne connaît pas l'identité de l'homme interrogé par les enquêteurs. Il s'agirait d'une personne qui a déjà été entendue comme témoin dans cette affaire. Le 30 septembre dernier, le juge d'instruction et les gendarmes avaient organisé à Chevaline une remise en situation sur le lieu du drame avec tous les témoins de l'époque. On ne sait pas si l'arrestation de ce matin est liée à cet acte de procédure qui visait à relancer l'enquête.
Merci Serge Puyot à Grenoble pour RTL.
Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du service police-justice de RTL. Ces nouveaux actes d'enquête, c'est vrai que Serge le disait, ils viennent s'ajouter à une longue liste d'auditions d'interpellation.
Oui, dès le lendemain de la tuerie, le frère de Saad al-Hilli, le père de famille assassiné avec sa femme et sa belle-mère, se présente aux policiers londoniens. Le procureur d'Annecy évoque un possible différend familial lié à un héritage, mais cela ne va pas plus loin. Sur place, le maire de Chevaline est stupéfait par le crime.
C'est en pleine forêt, c'est à peu près 4 km de la mairie. C'est très sauvage, hein. Ça paraît surréaliste, quoi.
La piste locale prend alors le dessus. On est début 2014. Le portrait robot d'un motard croisé par un promeneur tout près de la scène de crime match. Un ancien policier municipal collectionneur d'armes et gardé à vue. La ressemblance est frappante, même pour ses amis.
Quand on a vu le portrait robot, moi je l'ai regardé, j'ai retrouvé que c'était effectivement un peu ressemblant. Puis je lui ai montré le journal en lui disant « Et là Eric, dis donc, ce serait pas toi le tueur de Chevaline ?» Mais c'était vraiment sur le ton de la plaisanterie et voilà.
mais l'ADN va disculper le suspect. Le mystère, Chevaline reprend de plus belle. Un légionnaire, ami du cycliste tué, est entendu puis relâché dans une lettre. Il explique ne pas avoir supporté le soupçon. Un an plus tard, le fameux motard est identifié grâce à la téléphonie. Il est à son tour mis hors de cause. Depuis, peu d'avancées. Deux fillettes de 4 et 7 ans à l'époque ont survécu à la tuerie. Elles devaient être réentendues ces derniers mois. On ne sait pas si cela a été le cas.
Les précisions de Thomas Proutot pour RTL.
RTL Soir. Et vous, vous faites comment demain ? La grève à l'école contre le protocole sanitaire s'annonce très suivie, particulièrement en primaire avec la moitié des établissements fermés. Jour de congé, grands-parents, garde partagée avec des proches. Dans les familles, c'est système D. Des parents, pour autant, souvent plutôt compréhensifs après le casse-tête des tests depuis la rentrée.
Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Demain, c'est bien la gestion de la crise sanitaire depuis 2 ans qui sera dénoncée dans la rue.
Oui, un front uni des syndicats, des personnels de l'éducation nationale pour demander une gestion de crise plus lisible et plus respectueuse. Pas des annonces à la dernière minute qui sèment la confusion et mettent tout le monde en difficulté. Marre d'apprendre les consignes dans les médias, scande l'UNSA, ça c'est pour la forme. Et sur le fond, le SNIPP en primaire réclame un retour à la fermeture de classe dès le premier cas Covid, avec des tests salivaires systématiques hebdomadaires. Le SNES, la CFDT, estime qu'il faut au moins déterminer un nombre de cas positifs à partir duquel on ferme la classe, ou à partir duquel on déclenche un dépistage ciblé plus poussé. Et tous attendent des masques chirurgicaux, des capteurs de CO2 et des remplaçants. Le manque de moyens financiers et humains pour fonctionner devient insupportable, dit le communiqué commun de l'intersyndicale.
Les syndicats qui demandent aussi des adaptations pédagogiques face à la situation sanitaire.
Ben oui, parce que dans les circonstances actuelles, difficile d'avancer dans les programmes, beaucoup d'élèves et d'enseignants absents. Il y a le bac en vue. La CFDT prévient, on ne peut pas faire comme si de rien n'était et demande donc qu'une concertation s'ouvre dans les jours qui viennent sur les nécessaires adaptations à mettre en œuvre. Et pour le SNES-FSU, une seule solution, reporter à juin les épreuves de spécialité du bac prévues en mars.
Des revendications sur le fond et sur la forme. Merci Marie Garrier pour RTL. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a reconnu quelques errements tout en assumant tout de même le protocole mis en place.
Oui, nous le reconnaissons. Évidemment, tout n'a pas été parfait au cours de ces derniers jours sur le protocole. Nous savons combien la situation est difficile, combien elle est éprouvante pour les parents comme pour les personnels de l'éducation nationale. Avec 300 000 cas par jour, seulement 2% de classes sont fermées aujourd'hui. Avec le précédent protocole, je le redis, le nombre de classes fermées aurait été massif. Nous préservons l'école et la santé de chacun avec pragmatisme.
Le porte-parole du gouvernement qui a aussi défendu publiquement le ministre de l'Éducation. On est tous très en soutien de Jean-Michel Blanquer, oui, a-t-il dit.
Ça, c'était pour la presse, parce qu'en coulisses, William Galibert, le ton est visiblement sérieusement monté avant le Conseil des ministres entre Jean-Michel Blanquer et son collègue de la Santé, Olivier Véran.
Oui, on appelle ça une bonne vieille embrouille entre collègues. Jean-Michel Blanquer trouve qu'en ce moment, il en prend un peu trop pour son grade, marre de passer pour le père fouettard, c'est comme ça qu'il le dit en privé, et marre du manque de solidarité d'Olivier Véran, qui à ses yeux, est aussi responsable des couacs autour de l'école. Donc il est allé s'expliquer. C'est le journal Le Parisien qui a révélé ce clash, mais RTL s'est fait raconter la scène. Les deux hommes se toisent. C'est Jean-Michel Blanquer qui est le plus virulent. « Calme-toi », lui dit Olivier Véran. Mais le ministre de l'Éducation ne se calme pas. Les autres membres du gouvernement s'éloignent un peu, tendent bien l'oreille pour ne surtout pas en perdre une miette. Le début du Conseil des ministres siffle la fin de ce combat viril, mais seulement verbal. Puis Jean-Michel Blanquer n'a plus décroché un mot, raconte un ministre. Ça ne vous étonnera pas, mais ce soir, silence radio au ministère de l'Éducation et pas de commentaires, nous dit-on chez Olivier Véran.
Presse de bec à l'Élysée, récit de William Galibert pour RTL.
Et dans un instant, d'autres secousses politiques et elles font trembler à Londres, Boris Johnson, le Premier ministre. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et comme promis, la suite de votre journal, 18h10 sur RTL avec des aveux et des excuses. C'est un Boris Johnson penaud qui s'est exprimé aujourd'hui devant les députés britanniques.
Le Premier ministre en difficulté après les révélations sur une fête à laquelle il a participé à Downing Street. C'était en plein confinement. Nouveau scandale que le Premier ministre a tenté de déminer face à une opposition qui ironise et l'appelle à démissionner.
Quand je suis allé dans le jardin juste après 18h, le 20 mai 2020, pour remercier les équipes avant de retourner à mon bureau 25 minutes plus tard, je croyais implicitement que c'était un événement lié au travail. Mais maintenant, je sais que j'aurais dû dire à tout le monde de retourner à l'intérieur.
Voilà, après des mois de tromperie et de duperie, le spectacle pathétique d'un homme qui n'a plus nulle part où se cacher. Sa défense, qu'il n'avait pas réalisé qu'il était à une fête, est tellement ridicule qu'elle en devient insultante pour les Britanniques.
L'ironie et les moqueries du chef de l'opposition travailliste face à Boris Johnson cet après-midi au Parlement. Des records battus, 1,59€ en moyenne le litre de gasoil la semaine dernière. Les prix des carburants flambent à nouveau en ce début d'année 2022. Et pour les artisans, cela s'en ressent déjà. Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré pour RTL un paysagiste du sud de Nancy qui voit ses factures exploser.
Et aujourd'hui, il y a une remorque attelée en plus à son camion, ce qui va augmenter sa consommation. Mais le parc de Thibaut Philippi est encore plus fourni.
Alors, il y a le véhicule de transport. Donc là, j'ai un 3,5 tonnes, camion Ben, un broyeur en l'occurrence. Et puis après, tout ce qui est engin de terrassement, etc. Mini-pelle, brouette à moteur d'impair, etc. Plutôt du diesel.
Et comme il exerce plutôt en milieu rural, il fait beaucoup de kilomètres et s'approvisionne à la petite supérette la plus proche de chez lui.
Écoutez, pour l'instant, on fait le plein sur une pompe locale et puis voilà, on ne s'occupe pas forcément d'aller faire 5 ou 10 kilomètres de plus pour aller au moins cher. Non, on n'a pas forcément le temps pour faire ça.
Et le paysagiste vient justement de faire son bilan pour 2021.
Sur un exercice, pour une petite entreprise comme la mienne, on est sur 5 600€ à l'année. Quoi. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de répercussions sur les prix de vente des chantiers, mais si ça continue comme ça, on va être obligé. Il y a un moment où on ne peut pas faire autrement. Après, on peut en prendre une partie à notre charge pour faire un effort, mais il y a un certain point où on ne pourra plus. Quoi.
En un an ici, le diesel a pris environ 38 centimes du litre. Cela fait un surcoût de 23€ à chaque plein du camion.
En Meurthe-et-Moselle, reportage de Samuel Goldschmidt pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pour un petit disquaire de Rome qui a vu débarquer hier le pape François. Il était environ 19h dans le magasin Stereo Sound à Rome. Donc quand le souverain pontife a débarqué, il a béni les lieux dont il était un habitué de longue date avant même d'être pape, avant de repartir avec un temps de 3 tours de musique classique.
Non.
Il est amateur d'opéra et de tango en tant qu'argentin, ça surprendra personne évidemment.
Effectivement, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps Peggy pour demain, ça dit quoi?
Encore sec et froid demain Julien, avec un ciel couvert entre la Bretagne, Île-de-France, les Hauts-de-France le matin et beaucoup de brouillard. Entre le sud-ouest et le nord-est, de la grisaille comme aujourd'hui et les jours précédents, accompagné en plus de brouillard givrant, tout ça va se dissiper. Dans l'après-midi, l'évolution sera plutôt favorable, les grisailles vont se dissiper. Et même si par endroits, c'est vrai, elles peuvent être tenaces, mais globalement, on retrouvera même des éclaircies au nord, ce qui était plutôt difficile aujourd'hui. Puis il restera 2 bémols, un ciel plus chargé sur les côtes d'Armor et le Nord-Pas-de-Calais. On se couvre bien parce que les gelées seront fréquentes et parfois bien marquées. Et les maximales, 3 à Strasbourg, 4 à Paris, Lyon et Lille, 8 à Rennes et Bordeaux, 11 à Biarritz et 15 à Nice. Et je rappelle qu'il reste 5 départements du sud-ouest en vigilance orange crue.
Merci Peggy. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite notre invité sera Patrice Evra, l'ex-défenseur des Bleus, se confie dans un livre. Il raconte avoir été victime d'abus sexuels adolescents, raconte aussi le racisme, son enfance en banlieue, son immense carrière. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h17, bonne fin de journée. Ce soir, notre invité, c'est une légende du foot français et qui ne connaît pas la langue de bois. Bonsoir Patrice Evra.
Bonsoir.
Ancien joueur de Monaco, pilier du grand Manchester United, joueur aussi de la Juve, de l'OM, 81 sélections en bleu. Votre autobiographie, I Love This Game, sort demain en librairie. 400 pages, des anecdotes, du franc-parler sur votre parcours, votre carrière. Et puis, dès les premières lignes, le lecteur va découvrir un témoignage qui est très fort, qui est poignant. Vous racontez avoir été abusé sexuellement à l'âge de 13 ans, régulièrement par le principal de votre collège qui vous hébergeait alors pour vous éviter des allers-retours lointains, un homme qui tentait de vous agresser le soir lorsque vous dormiez. Vous écrivez « Jamais je n'avais dévoilé les détails de cette histoire à quiconque ». 27 ans après, vous avez trouvé la force.
Oui, on dit la force, mais c'est un déclic. Je me suis senti comme un lâche à l'âge de 24 ans quand la police m'a appelé. Je jouais à l'époque à Monaco et ils m'ont demandé si cette personne avait eu des attouchements et j'ai dit non. Et depuis, j'ai vécu avec ce poids de lâcheté, de honte. C'est pour
vous
ça
dites
toutes
que
ces
vous
personnes.
Le regrettez, oui.
Oui, parce que tu te dis, j'ai laissé tomber d'autres personnes, j'ai laissé tomber d'autres gamins. Et à l'arrivée, j'étais vraiment dur avec moi-même. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ces personnes-là, c'est pas, moi on me dit Patrice, t'es courageux. Non, je suis pas courageux. Ces personnes-là, si elles parlent pas, c'est pas parce qu'elles sont pas courageuses.
Pour les autres, pour les enfants abusés aujourd'hui.
Pour les
aujourd'hui.
Enfants abusés, voilà, c'est une question de déclic et de parler avec les bonnes personnes. Moi, je me suis fermé et j'ai rencontré la femme de ma vie, Margot, qui a réussi à balayer toute cette toxique masculinité. Moi, j'ai été éduqué, mon père pleurait, c'est un signe de faiblesse. Donc maintenant, j'arrive même à pleurer de joie. C'est des choses nouvelles pour moi. Parce que j'ai bloqué mes émotions depuis cet abus et depuis plusieurs choses et où j'ai grandi.
Et vous racontez aussi à quel point c'est dur d'en parler. Alors, quand vous aviez 24 ans à Monaco, vous dites « j'avais peur, quelque part, de l'impact que cela pouvait avoir sur ma carrière, ma célébrité ». Et puis, vous dites aussi à quel point c'est dur d'en parler à ses proches et à votre maman.
Ben c'est, en fait, quand je dis même de la célébrité, etc., ça, c'est le après. C'est un blocage. J'étais même agacé, en fait, parce que tu enterres cette chose-là. Tu veux plus que personne t'en parle, ça, voilà. Et en fait, c'est après que tu dis, oui, tu te trouves des excuses avec le... Après, je dis, ouais, mais pas, t'as bien fait, parce que c'est avec la célébrité, mais non, c'est un mensonge. C'est parce qu'on est bloqué. On a vraiment plus envie de parler de ces choses-là.
Le moment où vous en parlez avec votre maman, il est fort dans le livre.
Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est le rendez-vous qui a été le plus difficile de toute ma vie. Je pense que de voir sa mère effondrée quand on lui annonce ça, et surtout à 40 ans, ça a été un moment fort, et jusqu'à présent, elle est effondrée. Et je me suis excusé, j'ai dit, je suis désolé maman, elle m'a dit, ne t'excuse auprès de personne. Mais voilà, je me devais de le dire à ma mère, j'ai voyagé, j'ai jamais eu autant une boule au ventre, une pression, et elle m'a dit, je m'excuse, j'aurais dû faire mieux. J'ai dit, non, maman, regarde, voilà, c'est le destin. Peut-être que si je l'aurais dit avant, peut-être ce monsieur, tu l'aurais tué, tu aurais été en prison, j'aurais pas eu la même éducation. Mais ouais, ça a été un moment fort. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, quand ils sont dans cette situation, même à ta propre mère, à ton père ou à ton frère et à ta sœur, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'en parler.
Cet épisode de votre vie, il a forgé quelque part inconsciemment votre personnalité. Vous le dites dans votre autobiographie. J'ai pu être dur, j'ai pu être impulsif dans ma vie. Pourquoi ? Parce que vous ne pouviez plus faire confiance à personne ?
Ben, tout simplement, j'ai décidé de plus faire confiance à personne, surtout à l'autorité. C'était quand même le principal. Ouais. Et tu bloques toutes tes émotions. Moi, j'ai pas honte de dire plusieurs fois, j'ai même fêté un titre. Je faisais semblant, en fait, parce que pour moi, c'était normal. J'avais plus d'émotions. J'étais dans des enterrements. J'ai perdu mes frères. Je rigolais même à l'église. Je veux dire, il y a même des gens qui me disaient, Patrice, t'as un cœur noir. Mais voilà, mes émotions, pleurer ou s'ouvrir à quelqu'un, tout était gommé. C'était une machine de guerre.
Dans ce premier chapitre, qui est baptisé « Enfant sauvage », vous racontez aussi le quartier, les Ulysses, banlieue parisienne, les tours à 15 dans un F4, les saucisses qu'on vole chez Carrefour dans la Manche pour les barbecues sur une grille de caddie, les bagarres, le deal, l'overdose de votre frère aussi. Ça aussi, ça a forgé votre caractère ?
Non, mais bien sûr, je pense que aussi, voilà, je dis toujours, naître noir dans ce monde, c'est un désavantage. Grandir dans une cité, c'est pas une question de jouer les gangsters ou les caïds, c'est une question de survie. C'est pour ça que j'ai horreur des célébrités ou des anciens joueurs qui sont là, oui, je venais de cette cité, ils veulent jouer les caïds. Non, si vraiment t'as grandi dans la cité, tu sais que c'est une question de survie et il faut pas s'en vanter. Et être abus sexuel à l'âge de 13 ans, c'est un traumatisme. Mais voilà, je me suis jamais, j'ai jamais laissé tomber. Je me suis jamais considéré comme une victime, même jusqu'à présent. Ça a été ma force. Et grandir dans, voilà, tu es dans une jungle et tu es livré à toi-même. Mon père, il est parti à l'âge de 10 ans. Ouais. Quand il est parti, j'ai dit jackpot, il n'y a plus d'autorité. Ouais. Et à partir de là, voilà, je vais devenir un homme.
Vous parlez du racisme dans le livre. Vous racontez justement comment vous quittez le quartier. Vous rentrez vraiment, alors, par la fenêtre dans le monde du foot. C'est vraiment l'aventure pour rejoindre votre premier club en Sicile, en 3e division italienne. Et là-bas, vous découvrez le racisme. Les cris de singe, les jets de bananes sur la pelouse. Et vous racontez une scène saisissante. Un petit garçon qui veut faire une photo avec vous.
Oui, je la raconte toujours en rigolant, mais ça, c'est le premier impact. J'arrive à l'aéroport et puis je vois le monsieur, il me regarde. Je dis, attends, je suis déjà connu. Donc après, il me dit, posso faire una foto, est-ce que je peux faire une photo? Je me dis, waouh, donc non, ça y est, là, je suis vraiment une star. Et puis là, il fait une photo avec moi, je fais une photo avec son gamin, pardon. Et puis son gamin, après la photo, il touche mon bras et il essaye de me caresser, quoi. En fait, il croyait que j'étais sale. Donc ça, c'est le premier impact. Après, dans les stades, On jetait des bananes, à chaque fois que j'avais le ballon, il faisait le cri du singe.
Vous avez 17-18 ans à l'époque.
17-18 ans, mais voilà, je me suis servi de ça encore pour être encore plus fort. Ça me donnait encore plus de force. Je disais, aujourd'hui, je vais vous manger, mais je vais vous répondre sur le terrain. C'est pour ça que bon, tout le monde n'a pas le même caractère. Ouais. Mais après, j'ai jamais eu de problème dans la rue. Par exemple, en Sicile, c'était comme une famille. C'est pour ça que pour moi,
c'est de l'ignorance.
C'était de l'ignorance, parce que même j'avais un téléphone et mes coéquipiers ils me demandaient « Est-ce que tu sais comment ça marche ?» Ils me montraient les touches et après j'ai allumé la télé et puis tu voyais les aborigènes de couleur noire et avec des lances en train de se battre contre les lions. Donc je pense que c'est ce qu'ils avaient vu. Et c'était plus de l'ignorance. Après, dans les stades, oui, il y avait beaucoup de racisme, mais voilà, ça partait de là.
Vous écrivez « Quand on gagne, on est la France black, blanc, beurre. Quand on perd, on redevient les immigrés qui foutent le bordel. »
Mais ça, faut pas pointer la France. Parce que c'est dans toutes les nations de football, dans tous les autres pays.
On l'a vu en Angleterre
récemment. Donc c'est pour ça que tout le monde était choqué. J'ai dit, mais arrêtez. Arrêtez de vous foutre du monde. Ça a été comme ça depuis bien longtemps. Et c'est comme ça, quand même les commentaires. Quand tu fais un bon match, ils vont dire, Patrice Evra, le français. Et quand tu n'es pas bien, d'origine sénégalaise. Ça, on n'est pas dupes. Moi, quand j'ai parlé des photos, quand le président de la République il venait et qu'on mettait des blancs à côté de lui, tout le monde disait, et après ils ont vérifié, mais c'est qu'il a raison. Parce que tout ce que je dis, je l'ai vécu et c'est cohérent.
Vous parlez aussi de Naïsna quand on parle d'équipe de France qui perd, le fiasco du Mondial 2010. À l'époque, vous êtes le capitaine des Bleus et vous racontez dans ce livre cette bulle toxique dans laquelle le groupe s'enferme. C'était un cadeau empoisonné, le rôle du capitaine à ce moment-là ?
Oui,
parce qu'on a tous en tête la fameuse conférence de presse où vous dites qu'il faut trouver la taupe.
Mais j'ai revu ça. C'est incroyable parce que j'étais dedans, j'étais dans mon personnage. Moi, c'est pas une question que j'ai le brassard. Je suis un capitaine sans le brassard. Mais ça a été vraiment. Ça m'a pas marqué, Naïsna. Il y a beaucoup de personnes. Moi, ça m'a pas marqué. Après Naïsna, je suis rentré à Manchester. On a gagné le championnat. J'ai été élu meilleur arrière gauche d'Angleterre parce qu'en fait, je savais la vérité. J'ai pas pu la dire avant, parce que c'était tellement, il fallait tellement dévouer, c'est comme un millefeuille, c'était par étapes. Par exemple, on m'a dit, Pat, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que t'aurais changé de Naïsna? Bah, j'ai dit, j'aurais pas retenu Nicolas Anelka quand on avait, cette tournée, on était en Tunisie, avant que le mondial commence, et il a senti le coup. Il m'a dit, Pat, je veux pas le mondial, il voulait partir du groupe. Et je l'ai retenu. Et j'ai appris, quand quelqu'un sent les choses et veut partir, faut pas le retenir. Mais après, cette histoire, on n'est pas descendu du bus. On est descendu du bus. On a signé à ses enfants. Il y a les preuves sur caméra. Et après, c'est Raymond Domenech qui a confisqué les clés du chauffeur et qui nous a tenus en otage dans ce bus. Et c'était un film digne de Spielberg. Mais il y a un moment, Naïsna, ça c'est la vérité. Je défie quiconque qui pense que, ce que j'ai dit, il y a un mot qui est pas vrai. Et puis après, c'est devenu politique. La France était en crise. À ce moment-là, il y avait des choses qui n'allaient pas dans le pays. Et on a dit, les gars, on va se servir d'eux. C'est racaille, etc. Jocelyne Bachelot qui est venue nous rendre visite, qui nous a fait un discours incroyable. Et après, au Parlement, elle nous a démonté. Donc c'est pour ça qu'aussi, j'ai plus confiance à aucun politicien.
Alors, après cet épisode de Naïsna, l'homme qui vous réinstalle plus tard en tant que patron, en quelque sorte, leader en équipe de France, c'est Didier Deschamps. On sait que vous avez une relation très forte. Et il était notre invité sur RTL à la mi-journée parce qu'il est parrain des pièces jaunes où, d'ailleurs, la lutte contre les violences sexuelles est au cœur de la campagne. J'ai lu que vous disiez « Deschamps ne m'a jamais fait de compliments, mais je sais qu'il m'aime ». On a une petite surprise pour vous. On lui a demandé pourquoi il ne vous avait jamais fait de compliments. Écoutez-le.
Oh, que je lui ai pas fait de compliments, oui, mais je le connaissais bien, donc il fallait pas trop lui en faire. Je préférais le mettre un peu sous pression, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai eu comme entraîneur à l'AS Monaco, il était tout jeune. On a vécu pas mal d'aventures humaines et sportives avec l'équipe de France aussi. Mais c'est quelqu'un sur qui, en tant que joueur, je m'appuyais. C'est un leader, et puis bon, maintenant qu'il a arrêté, on a eu l'occasion de se revoir, de discuter, donc évidemment c'est quelqu'un que j'ai apprécié dans le monde professionnel et que je continue d'apprécier.
Bon, il est pudique, Didier Deschamps, mais on sent que l'estime, l'amitié, elle est réciproque.
Non, mais bien sûr, Didier, c'est quelqu'un que j'aime, et ça restera comme ça toute ma vie. Et quand il a quitté Monaco, pour moi, c'était comme une trahison. J'ai été jusqu'à chez lui.
Ah oui, j'ai coup fait de pression à la maison. Hein.
Non, mais exactement, parce que c'était vraiment trop fort. Et comme il dit aujourd'hui, je me permets de l'appeler Didier. C'est quelqu'un que j'ai toujours dit coach ou vous. Et même de le tutoyer pour vous dire, il y avait un énorme respect entre nous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours ouvert les portes. Bah, quand ils ont gagné le mondial, il m'a invité. J'étais à Moscou. Ouais. J'ai déjeuné avec eux pendant les poules, etc. Donc voilà, Didier, c'est à vie.
Merci Patrice Evra d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. I Love This Game, votre autobiographie sort demain aux éditions Hugo Sport. Merci d'avoir été notre invité. On va marquer une petite pause dans RTL Soir. Ensuite, il y aura les dessous de l'actu avec un document exceptionnel et très émouvant, le dernier voyage de Paul. Nous avons suivi un Français malade parti mettre fin à ses jours légalement en Suisse. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
8h32.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et c'est l'heure de vous rappeler les grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Des vérifications d'emploi du temps. Un homme en garde à vue depuis ce matin dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Quadruple meurtre qui remonte à 2012. Cette décision de justice ce soir, le tribunal administratif de Versailles suspend l'arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque en extérieur pour les Yvelines. Le scénario improbable du match Mali-Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations. Match arrêté deux fois avant le temps imparti, 85e puis 90e, sans tenir compte des arrêts de jeu. L'entraîneur tunisien battu 1-0 dénonce une décision inexplicable.
Merci Marion. Le temps, Peggy, demain?
Eh ben un peu comme aujourd'hui, avec beaucoup de grisailles généralisées, du brouillard givrant le matin, ça va se dégager, et même un peu plus sur le nord, puisqu'on va retrouver des éclaircies, malgré quelques grisailles tenaces, et des maximales de 3 à Langres, à 15 à Toulon, 4 à Paris, 6 à Reims et 11 à Montpellier.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu, ce soir, les dessous du dernier voyage de Paul. Ce matin, vous avez sans doute entendu ce reportage poignant sur RTL. Nous avons suivi un Français malade. À 84 ans, il a décidé de mettre fin à ses jours en Suisse, là où le suicide assisté est autorisé.
C'est une souffrance permanente. Je vieillis et que des problèmes physiques. Je n'ai plus aucune joie de poursuivre cette vie. Je vais leur faire beaucoup de peine, mais c'est ça. Une fois et définitivement, de savoir que je ne vais plus être un poids, ça me soulage énormément. Parce que je les aime. Triste, non. C'est un acte d'amour.
Nicolas Burnand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi les dernières heures de Paul aux côtés de sa famille. Racontez-nous où se sont-elles déroulées, dans quel cadre, dans quel lieu exactement?
Eh bien, c'est un endroit particulier, un ancien bureau converti en appartement, situé dans une zone industrielle, coincé entre un garage et un vendeur de pizza. Un long couloir avec au bout une chambre colorée.
Il y a une table, il y a les fleurs, il y a le lit médicalisé.
Erika Preissig est la présidente de l'association Eternal Spirit. Elle prépare la dose létale dans cette petite cuisine.
On remplit la petite boîte avec la solution physiologique. On secoue bien. Quand je commence à préparer, je suis un peu triste. Je sais que quelqu'un part, mais aussi la gratitude de pouvoir terminer la souffrance.
Le malade doit ouvrir lui-même le robinet de la perfusion. Les dernières questions sont filmées pour les autorités en cas de litige. Cette médecin de 63 ans a longtemps pratiqué des soins palliatifs avant de se tourner vers le suicide assisté. Elle a aidé plus de 400 personnes à mourir.
Moi, je ne tue personne. Je leur aide 1000 fois d'éviter la mort dans leur vie comme médecin. Mais je donne la personne la possibilité de finir la vie en sécurité.
Ils sont nombreux, les Français, à sortir de nos frontières pour mettre fin à leur jour.
Difficile à dire, c'est un voyage souvent intime. Il n'existe pas de statistiques officielles. Plusieurs milliers d'étrangers se rendent chaque année en Suisse, dont quelques dizaines de Français. Ils souffrent d'un cancer avancé, d'une maladie neurologique, mais lui aussi, la législation suisse le permet, des personnes atteintes de polypathologies liées à l'âge.
Si on est très âgé, on commence à avoir peut-être 2-3 maladies. Et à la fin, les gens disent, mais qu'est-ce que ça donne? La vie ne va me donner rien de plus. Et je vais terminer cette bonne vie maintenant, avant que je sois incapable de discernement et je finis dans une maison de retraite.
Après chaque suicide assisté, Erika Preissig referme la porte de la chambre, quitte l'appartement. Elle part alors marcher dans la montagne pour se ressourcer et trouver la force de continuer.
Merci Nicolas pour ce document très fort ce soir, disponible évidemment en format long, le dernier voyage de Paul sur RTL.fr et l'appli RTL. Merci.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
À 18h36.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant dans RTL Soir. C'est le moment qui nous réjouit chaque jour. La bande de LVT vous offre des idées pour occuper intelligemment vos soirées. On va parler télé ce soir avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir.
Bonsoir.
Tiens, permettez-moi de signaler avant toute chose la seconde partie ce soir du documentaire d'Arte sur Mohamed Ali. C'est formidable.
C'est effectivement un documentaire exceptionnel sur la vie du boxeur, passé d'un Cassius Clay plein d'arrogance au grand Mohamed Ali plein d'assurance. 120 minutes sur un lutteur épique et une époque elle aussi en lutte.
Alors ça c'est sur Arte pour les fans de boxe et les autres d'ailleurs. Et puis c'est aussi un soir de fiction avec notamment The Undoing sur TF1.
Connaissez classique car c'est déjà un classique. Ceci leur montre un couple glamour new-yorkais uni, elle psy, lui oncologue pédiatrique, couple volant en éclats près de la découverte du corps d'une femme, s'avérant être la maîtresse de monsieur. Il est accusé. Va-t-elle le soutenir? L'avocat l'atteste aussi délicat qu'un 38 tonnes dans un salon.
Votre mari semble plutôt convaincu que vous soutiendrez son innocence.
Eh bien, il se trompe.
Oh, je vois. D'après moi, vous faites partie de ces femmes qui souffrent de TIPT.
Je vous demande pardon?
Trouble de l'infidélité post-traumatique. C'est moi qui l'ai inventé.
Voilà, c'est convaincant et Nicole Kidman a une bien belle plastique. Enfin, plastique, si j'ose dire.
Pendant ce temps-là, sur M6, ce soir, on retrouve l'émission événement Qui veut être mon associé, cet investisseur et en face, des jeunes entrepreneurs qui cherchent un financement.
C'est exactement ça, avec participation à leur capital, d'où ce soir un moment surréaliste quand de jeunes ingénieurs ayant lancé un site de soutien scolaire refusent de transiger sur leur pourcentage alors que deux des sept patrons leur proposent par ailleurs une alliance inespérée, d'où stupeur.
Si la boîte vaut plus cher du fait qu'il rentre, vous venez de dire tout non suite à 300 000 euros, voire 600. En tout cas, merci.
Bon courage pour la suite.
Bon courage. Au revoir.
Au revoir. Là, on est dans un cadre typique où, le QI est très élevé, mais le quotient émotionnel nul.
Voilà. L'émission peut avoir des effets immédiats aussi. Mercredi dernier, on découvrait Bob. Eh bien, les deux créateurs qui ont commercialisé Bob ont eu un afflux de commandes après l'émission.
Ah oui, c'est super,
des clients
ça.
Qui attendent maintenant quoi? Eh ben, l'arrivée de Bob l'éponge.
Ah, forcément, pour la vaisselle. Effectivement, M6 TF1 Arte, vous avez le choix ce soir. Merci pour vos conseils, Isabelle Morini-Bosque.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, petite pause avant de défaire le monde dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Pour fêter l'ouverture des soldes, on va défaire le luxe. En tout cas, son marché dans un instant, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.